Adicias a tutes. La danse, comme toute activité humaine qui dépasse le quotidien, circule dans la société au bon vouloir des rois, s'amuse avec les modes. Il ne reste dans l'histoire que les moments de transition où la nouveauté va surgir et enthousiasmer les foules. Parfois, on ne retient qu'un nom, qu'une aventure. Ce qui est sûr, c'est que l'art appartient à l'histoire et qu'il voyage et se calque à la vie. Au XIXe siècle, le ballet d'action est passé de la nouveauté à la désuétude. Le ballet romantique va peu à peu éclipser les dieux de la danse qui en ont fait sa gloire. À cette époque, l'attention du public parisien s'attarde davantage sur la danseuse que sur la danse. Ainsi, le danseur s'efface devant sa partenaire. Car c'est elle que les poètes chantent et que les critiques mettent en valeur. Les étoiles viennent éblouir les spectateurs, y compris quand elles se présentent dans des rôles masculins. Les danseuses travesties sont à la mode et le public parisien apprécie l'ambiguïté qu'offre le spectacle d'une Fanny Hessler en uniforme militaire. Que les dames tiennent des rôles masculins, cela ne choque personne, même à Londres. On peut lire dans une chronique « Ces jambes d'Amazone qui tournent aux jambes de héros, tant elles deviennent mâles. » En 1880, le théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris compte plus de 180 sujets féminins et aucun masculin. Pendant que l'Opéra de Paris s'endort avec des ballets réduits à la fonction de divertissement, la danse va s'épanouir en Russie avec le chorégraphe Marius Petipas, que l'Opéra de Paris a dédaigné. Après une carrière de danseur dans les théâtres impériaux de Russie, Marius Petipas portera le ballet classique français à son apogée. Il a su combiner la rigueur de l'école française avec le lyrisme slave et la virtuosité mise à la mode par les Italiens. Chorégraphe inventif, il agence de somptueux ensembles pour un corps de ballet qu'il remet dans la mixité, refusant le travesti. Il a su redonner aux hommes les rôles importants qui leur reviennent. Il est aussi renommé pour la musicalité de ses danses, sachant fusionner mouvement, musique, dramaturgie. Un critique écrit « Chez lui, les figures de danse, comme le pas fouetté ou le pas de bourré, se fondent entièrement dans la musique et le rôle. » Pour écrire la musique de danse, il fait appel aux grands musiciens comme Tchaïkovski, qui fera les partitions de La Belle au bois dormant, Le lac des cygnes ou Casse-noisette. Des ballets encore aujourd'hui au répertoire, bien sûr. Avec lui, la technique devient de plus en plus évoluée, mais il refuse la virtuosité pure en ne cédant pas aux caprices des étoiles. Il ne pourra toutefois pas feindre le succès de la prima ballerina assoluta, Pierina Legnani, qui exécute dans Cendrillon, en 1893, les fameux 32 fouettés sur pointe. Ce pas deviendra le graal de la technique de toutes les étoiles à venir. Il tient à garder dans ses compositions une qualité esthétique, une plastique et une beauté en accord avec le thème de la création. Il est le maître incontesté de la création en Russie, laissant en héritage une quantité de ballets encore dansés aujourd'hui et, surtout, le fameux tutu court, devenu le symbole du petit rat de l'opéra. C'est aussi grâce à lui que Gisèle et le tutu romantique continuera à éblouir les spectateurs dans le monde entier. Mais alors, pourquoi ce chorégraphe si classique va devenir le fondateur de la danse moderne? Parce qu'il est le maillon entre la tradition du XVIIIe siècle, le romantisme et l'âge moderne. Sa longévité, 1819-1910, en fait le fondateur en quelque sorte du ballet russe contemporain. Pourquoi? Mais parce qu'il va se trouver à la charnière des grands changements dans l'histoire du ballet et qu'il a su maîtriser la nouveauté en créant des œuvres remarquables. En premier, il apprend la danse avec le Vestri, le novateur du ballet d'action. Puis, il danse avec Perrault, un des dieux de la danse, et collabore à ses chorégraphies. Il partage le rôle des plus grandes ballerines comme Fanny Esler. Et enfin, il a formé les plus grands danseurs russes comme la Pavlova, Karsavina et Fokine. Ce dernier continuera à faire appel aux grands musiciens pour la musique de ballet. Tamara Karsavina, étoile russe, écrit « On ne douta pas de son génie quand il fut en vie, mais la puissance de ses créations s'est étendue bien au-delà de son époque et n'est pas encore effacée. » Marius Petipa, que le tsar a nommé maître de ballet à vie, prend sa retraite en 1903. Il a 84 ans. Tandis qu'avec Petipa s'achevait le triomphe du ballet romantique, avec Serge Diaghilev, Loï Fuller ou Isadora Duncan va commencer un âge nouveau pour la danse. Notre cycle de la danse s'achève à l'orée du XXe siècle, juste avant la venue des ballets russes de Diaghilev à Paris, qui, avec le Sacre du printemps, sur une musique de Stravinsky, va bousculer la tradition et permettre à Nijinsky de jeter les premières pierres de la danse contemporaine. À suivre! Je vous souhaite de passer un été chaleureux et vous dis à la rentrée septembre pour participer au grand bouleversement de la contemporanéité de la danse au XXe siècle. Adisias! Alkop Kevin!